finalement dire que la barrière entre le chimpanzé et l'homme, c'est le langage, ce serait abusif
Il y a deux choses là. L'idée, il y a une idée qui est malheureusement assez commune dans le milieu scientifique, qui est que le langage est un bienfait et que ce qui manquait aux chimpanzés pour arriver à parler, c'était la grammaire, c'était la syntaxe. Bon, ça, les gens qui sont au courant un petit peu des mécanismes de la sélection naturelle savent que ça ne tient pas. Hein. Ce n'est pas la grammaire, la syntaxe, la capacité à enchaîner des mots pour former des phrases, est un moyen. Mais surtout l'idée dont on est sorti, c'était cette idée naïve selon laquelle le fait de parler est un bienfait magnifique pour toutes les espèces, et que si les malheureux chimpanzés ne parlent pas, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps d'évoluer, ou je ne sais quelle autre fable. Non, nous sommes différents des autres animaux, toutes les espèces animales sont différentes, l'éléphant a une trompe, les castors font des barrages, nous parlons, ça fait vraiment partie de nos particularités. Alors, pour rejoindre ce que disait Jean-François Dortier, on sent bien que parmi toutes ces particularités humaines que vous avez citées, l'art, la religion, le fait d'être quand même d'avoir des capacités d'ingénierie pour l'espèce humaine, on sent bien qu'il y a une espèce de déterminisme commun. Alors, j'ai bien envie quand même de mettre le langage un petit peu au centre, c'est-à-dire lui faire un petit peu jouer ce rôle, et en cela je suis quelqu'un d'assez prestigieux, en l'occurrence Jacques Monod, qui a émis, je crois, un des premiers cette hypothèse, qui est que l'originalité de notre espèce est due au fait que nous avons le langage. C'est le langage qui a entraîné un petit peu les autres facultés. Contrairement à l'idée souvent répandue qui est que nous sommes devenus intelligents et parce que nous étions, je sais pas quoi, debout, on avait des mains pour fabriquer des outils, que ça nous a rendus intelligents et qu'après on n'avait rien trouvé de mieux que de se mettre à parler. Et ce que fait Jacques Monod, c'est qu'il renverse un petit peu cette logique et il dit non, nous sommes intelligents, nous manipulons des concepts parce que nous avons un intérêt à parler et à communiquer des concepts. Donc l'intelligence est une conséquence du langage, non pas une cause.
Oui, alors Jean-Louis de Sales reste les aphasiques quand même de Jean-François Dortier. Qu'est-ce qu'on en fait?
Loin de moi l'idée de réduire le langage à sa production. L'idée, c'est que, si, pour prendre une très mauvaise image, si vous prenez lancer un programme dans un ordinateur, un programme par exemple comme les simulations que nous faisons tourner, si vous débranchez l'écran et le clavier de l'ordinateur, là ça continue à fonctionner. Donc l'idée, c'est que le langage, c'est pas seulement la production des mots, c'est pas seulement la syntaxe, c'est aussi la production du sens. Hein, c'est la capacité à conceptualiser. Donc si on inclut la capacité à conceptualiser dans le langage, c'est-à-dire le langage n'est pas apparu avant qu'on ait quelque chose à dire, à ce moment-là, je pense qu'on peut plus tomber d'accord. C'est-à-dire que cette capacité à conceptualiser, qui n'a d'autre fin que de communiquer, nous a permis, par ailleurs, en s'amplifiant, de devenir plus intelligents, de nous mettre à résoudre des problèmes de meilleure façon, et ainsi de suite. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai envie de défendre l'idée de Jacques Monod. Ça ne veut pas dire que je vais mettre comme primus movens le langage. Je pense effectivement qu'il y a un déterminant avant. Si on cherche un chaînon manquant, vous savez, le fameux chaînon manquant, on le cherche dans les squelettes. On a pléthore de squelettes. On a très peu de squelettes pour l'évolution des chimpanzés. On en a plein pour l'évolution humaine. Il y a toujours des gens qui vont vous réclamer un chaînon manquant. Bon. Mais ce qui nous manque, c'est un chaînon manquant conceptuel, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui nous a fait bifurquer au cours de l'évolution d'un mode de vie de type primate qui ne parle pas ou qui communique de manière, comme on dirait, assez répétitive. La communication des primates ou des animaux en général peut être très complexe. On comprend rien à la communication des dauphins qui dans la complexité nous échappe. Mais l'idée, c'est que leur communication, comme vous disiez, Jean-François Dortier, la communication des chimpanzés, finalement, ils n'ont pas grand-chose à se dire d'un point de vue humain. Hein, c'est un jugement peut-être de valeur. L'idée, c'est que notre communication diffère qualitativement de la leur. Et la question de savoir quel est le chaînon manquant, qu'est-ce qui a fait qu'on est bifurqué. Et mon candidat à moi, c'est pas le fait qu'on s'est mis à avoir un pharynx plus bas, à émettre des sons ou à pouvoir enchaîner des mots par une grammaire. Je pense vraiment que le chaînon manquant, c'est un changement d'organisation sociale. Nous avons une organisation sociale qui diffère qualitativement de celle des autres primates et qui fait que dans cette nouvelle organisation sociale, les individus ont intérêt à communiquer, ce qui n'est pas le cas chez les autres primates. Donc là, on a peut-être un chaînon manquant, et cette organisation sociale différente a pu entraîner le langage d'un côté, et d'autres choses, pourquoi pas, l'expression artistique, ou de d'autres, et même la religion, ou d'autres phénomènes qu'on considère comme proprement humain. Donc il y aurait une bifurcation qui serait de type d'organisation sociale qui aurait entraîné tout un tas de choses, le langage étant effectivement un élément assez fondamental, le langage et la pensée qui le sous-tend.
Alors bifurcation sociale, il faut que vous nous en disiez un peu plus tout de suite, parce que sinon les auditeurs vont attendre. Alors quel type d'organisation sociale, qu'est-ce qui se serait passé pour que justement on se mette, à, comme vous disiez, à produire cette capacité à conceptualiser afin de communiquer?
Alors, moi, j'ai un candidat. Hein. Nous avons tous des thèses ce soir.
Oui,
j'ai la mienne.
C'était interdit au 19e siècle, mais ça revient
voilà,
en
voilà.
France.
Voilà, donc on a, je voulais vous dire qu'on a le droit de dire des bêtises librement.
Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que même dans les hypothèses les plus modernes, on retrouve des choses qui ont été émises aussi au 19e siècle, et sans doute bien avant. Voilà. Et c'est aussi l'intérêt
de
l'émission de ce soir. Oui.
Voilà, la différence avec la situation du 19e siècle, c'est qu'à l'époque, c'était un peu comme le jour des fous. On pouvait dire un petit peu ce qu'on voulait, sans critères, pour essayer de tailler au sein de la forêt des hypothèses. Maintenant, la situation est très différente. C'est-à-dire qu'on a des moyens conceptuels pour se dire telle et telle hypothèse est fausse. Et donc, notamment les hypothèses qui viennent immédiatement à l'esprit, qu'on nous a beaucoup racontées sur le langage est utile à l'espèce, etc. Bon, on se rend compte que ça ne tient pas la route. C'est-à-dire que c'est des scénarios qui ne fonctionnent pas. Et d'ailleurs, quand je les simule sur ordinateur, je vois très bien que les individus qui se taisent s'en sortent beaucoup mieux que les individus qui donnent bêtement des informations utiles à leurs concurrents. D'où l'idée d'avoir des scénarios. Donc moi, mon candidat, c'est une organisation, le fait que nous soyons une espèce politique, finalement. Hein. Nous ne sommes pas les seuls.
C'est Aristote, là, voyez.
Voilà, on remonte à Aristote. On remonte aussi, un petit peu moins loin, un célèbre livre de Franz de Waal, qui a écrit un livre qui s'appelle La politique du chimpanzé, qui décrit notre espèce cousine comme une espèce éminemment politique, dans laquelle les individus font des alliances pour conquérir le pouvoir. L'idée, c'est que nous sommes encore plus graves que les chimpanzés à cet égard, c'est-à-dire que nous sommes une espèce très politique, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas nous empêcher de former des coalitions d'individus. Ça peut être des coalitions, ce qu'on appelle l'amitié, nous avons tous des amis, un réseau de relations, ça peut être des choses beaucoup plus formelles, ce qui se traduit dans nos sociétés modernes par les systèmes politiques proprement dit. Et l'idée, c'est que le langage vient s'insérer dans ce scénario politique comme un moyen d'afficher des qualités. Alors, évidemment, ce n'est pas un scénario très simple, mais c'est le scénario le plus simple que j'ai pu trouver qui soit compatible avec la théorie de la sélection naturelle. Et ça, je peux dire en deux mots pourquoi. Imaginez que chez nos ancêtres, il y ait donc deux belles créatures, appelons-les Ève et Léa. Et Ève se met à parler, à donner des informations utiles à ses congénères, et Léa se contente d'écouter ce que dit Ève, et surtout de ne pas dire les informations précieuses, de ne pas les donner aux autres. Le défi que nous avons pour expliquer l'essence du langage, c'est d'expliquer pourquoi nous descendons d'Ève et non pas de Léa. Parce que le bon sens voudrait dire qu'on descend de Léa et non pas d'Ève, puisque Léa dispose de ses propres informations plus celle que lui a donnée Ève. Donc on devrait descendre de Léa, or nous descendons d'Ève. Donc ça, c'est la partie difficile à expliquer si on veut rendre un scénario de l'émergence du langage compatible avec la théorie de la sélection darwinienne qui prévoit des comportements plutôt égoïstes. Donc là, le langage n'est pas un comportement égoïste. Les humains ont énormément de comportements qui ne sont pas égoïstes. C'est très difficile à expliquer dans le cadre de la sélection darwinienne. Ce n'est pas impossible.
Alors, je voudrais qu'on revienne quelques instants sur ce que disait Jean-Louis de Sales tout à l'heure, parce que ça me semble quand même une idée qui est sans doute assez banale pour ceux qui connaissent bien la question, mais qui finalement bouscule beaucoup les représentations. C'est cette idée que, a priori, le langage ne serait pas un bienfait pour l'homme en termes de stricte évolution, si j'ai bien compris, en termes de stricte sélection, le bavard serait plutôt en état de faiblesse. Je voudrais savoir si ça, c'est quelque chose qui est donc unanimement partagé, ou si c'est une thèse originale ou défendue par un certain nombre de chercheurs aujourd'hui, parce qu'on a tellement cette idée que le langage est évidemment une supériorité évidente sur l'animal, que j'ai trouvé ça très troublant, même si vous passez très vite là-dessus, sur à peine les premières pages de votre livre, mais c'est une idée très troublante pour nous, en fait.
Alors, certainement avant, dans la situation antérieure, par anthropocentrisme, on avait tendance à dire que le langage est un bienfait absolu, Et donc, le grand mystère, c'est de savoir pourquoi les animaux ne parlaient pas. Maintenant, on est plutôt dans la situation inverse, dans laquelle on comprend très bien pourquoi ils ne parlent pas, on ne comprend plus pourquoi l'espèce humaine est parlante.
Ils ne parlent pas, mais ils communiquent.
Ils communiquent et ils ne parlent pas au sens qu'ils ne se donnent pas mutuellement, en général, enfin il y a des exceptions, ils ne se donnent pas mutuellement des informations utiles. Et le propre de notre espèce, c'est de se donner des informations potentiellement utiles, mais surtout sans cesse renouvelées. C'est notre idée que nous disons des choses intéressantes. Et le grand défi, c'est d'arriver à comprendre pourquoi ceux qui donnent les informations sont gagnants. Et dans une perspective de sélection naturelle, c'est un vrai mystère, puisqu'ils donnent des informations utiles à leurs concurrents, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure avec Ève et Léa, pourquoi nous descendons d'Ève et non pas de Léa qui se contente d'écouter. Et l'idée, on arrive à expliquer...
Oui, excusez-moi, les abeilles, elles se donnent des informations précieuses aussi.
Elles se donnent des informations précieuses. Fait partie des rares exceptions qu'on connaît. Il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais on ne les a pas encore trouvées. Mais les abeilles se donnent des informations précieuses entre sœurs. Elles sont très fortement apparentées au sein de la ruche. Les humains communiquent indépendamment de leur degré de parenté. Et en ce moment, nous sommes en train de communiquer avec des centaines de milliers de personnes avec qui nous ne sommes pas apparentés. Donc ça, c'est la partie difficile à expliquer, et la seule façon que nous avons trouvé de lui donner un sens, et donc il y a maintenant de plus en plus de chercheurs, notamment qui viennent du monde de l'éthologie, l'éthologie théorique, qui travaillent sur ce qu'on appelle la théorie du signal honnête, qui commence à essayer de développer cette nouvelle théorie, c'est de dire que le langage est un moyen d'affichage. Et certains types de communication animale sont un moyen d'affichage, même si c'est à fond perdu. En fait, l'animal, ou l'humain en l'occurrence, affiche une qualité en parlant.
Comme le paon qui fait sa roue.
En quelque sorte, dans le cas du paon, c'est à des fins sexuelles. Dans le cas des humains, le langage est marginalement utilisé pour pas des fins sexuelles, pour draguer, comme on dit, mais c'est marginal.
Mais quand vous dites s'afficher, c'est l'idée de
s'afficher vis-à-vis des congénères, quel que soit leur sexe, se valoriser. Et montrer une qualité qui est, pour laquelle le langage est un bon vecteur, en l'occurrence, la qualité informationnelle. En gros, ça consiste à dire qu'on est capable de savoir avant les autres. Quand vous avez un scoop, que vous soyez journaliste ou non journaliste, vous le donnez et vous essayez de le donner avant les autres. Ça peut avoir des conséquences fâcheuses dans certains métiers de professionnels de l'information si on exagère trop. Mais l'idée, c'est que même dans la conversation familiale ou les conversations de tous les jours, quand vous avez une information originale, vous brûlez d'envie de le dire aux autres. J'ai un collègue anglais qui m'a dit avoir vu sur la Tamise qu'un fox était échoué à cet endroit-là. Il y avait un attroupement. Ce qui serait très impressionnant, c'est que les gens avaient tous décroché leur téléphone portable pour téléphoner à des gens qui étaient à des centaines de kilomètres de là, rien que pour leur dire qu'il y avait un phoque sur les bords de la Tamise. Nous avons ce réflexe de transformer en acte de communication tout ce qui est un petit peu inattendu dans notre environnement. Donc ça, c'est fait partie du propre de l'homme. Et ce faisant, nous affichons une qualité qui est celle de savoir avant les autres. Et dans un contexte qu'on pourrait appeler politique, qui est dans lequel les individus forment des coalitions, c'est supposé être une qualité recherchée. C'est-à-dire qu'on va plutôt s'allier avec des gens qui sont un petit peu au courant de leur environnement. Donc voilà un petit peu le scénario. C'est un scénario plus compliqué que celui qui consiste à dire que on communique pour le bien de l'espèce, pour le bien de ce que vous voulez, mais au moins c'est un scénario qui est compatible avec la théorie de la sélection naturelle, ce qui n'est pas le cas des autres scénarios.
Et donc ensuite, selon votre hypothèse, donc le langage aurait servi ensuite pour coopérer éventuellement, pour faire des pirogues et traverser des bras de mer, mais ce n'aurait été qu'une conséquence finalement.
C'est une conséquence, ce n'est pas la raison pour laquelle il a été sélectionné.